soir, le président de la République, Joseph Kabila, a promulgué hier mardi l'annexe à la loi électorale portant sur la répartition des sièges pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé le début de l'audit externe du fichier électoral par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Quelle analyse faire de cette situation? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous recevons Albert Fabrice Puella, député national de l'opposition, leader du parti pour la renaissance du Congo, RECO, et membre de la dynamique de l'opposition, Albert Puella, qui devrait nous recevoir. Il est aussi, qui devrait nous rejoindre dans un instant. Il est aussi membre du Rassemblement, Albert Puella, que nous annonçons déjà pour cette émission. Béatrice Lomeya, bonsoir.
Bonsoir, Donat.
Vous êtes députée nationale de la majorité présidentielle, secrétaire permanente adjointe du parti, principal parti présidentiel, le PPRD. Et enfin, Alain-Joseph Lomanja, analyste des questions électorales. Alain-Joseph Lomanja, bonsoir.
Bonsoir, Donat, et bonsoir à tous les auditeurs.
Avec Albert Fabrice Puella, vous êtes donc trois pour cette émission avec moi. Pour échanger avec vous, à tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ça y est, l'annexe à la loi électorale portant répartition des sièges pour les élections législatives provinciales, municipales et locales en République démocratique du Congo, votée en avril dernier, a été promulguée hier mardi par le président de la République. Un document promulgué alors que l'audit du fichier électoral par des experts indépendants commence ce mercredi même avec l'installation d'une commission ad hoc impliquant tous les acteurs. Le président de la Commission électorale nationale indépendante l'a confirmé hier sur aux antennes. Écoutons à ce sujet Corneille Nanga.
Le calendrier électoral de la CENI avait prévu l'audit du fichier électoral à partir du 6 mai. C'est l'OIF qui va conduire cette mission d'audit. Les experts, ils sont au nombre de 6 ou 7, sont déjà à Kinshasa depuis effectivement le 6 même. Si bien que demain, nous allons avoir l'installation du comité ad hoc de l'audit du fichier électoral. Ce comité ad hoc est composé entre autres de la CENI, de l'OIF. Mais pour raison de transparence, nous avons opté pour une démarche inclusive et transparente en installant un comité ad hoc qui jouerait le rôle d'observateur et ils auront donc des avis consultatifs. Mais quant à ce qui concerne les résultats qui en sortira, qu'allons-nous faire avec ces résultats? L'audit du fichier électoral, c'est en fait des analyses des données présentées par la CENI et ces analyses ont pour but d'identifier les faiblesses et les forces du fichier tel qu'il est aujourd'hui et elles permettront bien entendu de formuler des recommandations pertinentes pour l'amélioration.
Voilà, nous l'avons dit à l'instant, c'était là le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga. L'annexe à la loi électorale portant répartition des sièges pour les élections législatives provinciales, municipales, locales en RDC est promulguée pendant qu'une vive polémique règne encore dans le pays au sujet de la validité d'une telle loi, alors que le débat sur la fiabilité du fichier électoral n'est pas encore clos. À l'opposition, par exemple, on continue de crier à un fichier électoral douteux et fabriqué pour la tricherie de la majorité présidentielle. Écoutons ici le député national Fabien Moutombe.
D'entrée de jeu, il faut savoir qu'au niveau de l'opposition, au niveau de l'UDPS, nous sommes prêts pour aller aux élections. Des deux, je voudrais tout simplement dire qu'il se pose un problème d'attelage. On a mis la charrue devant les bœufs. Nous l'avions dit à l'Assemblée nationale. Dans le processus, il y a deux étapes. Il y a l'audit interne et l'audit externe. Le toilettage interne a été élaboré par la CENI pour laquelle de 46 millions, nous sommes arrivés à 40 millions d'enrôlés. Maintenant, il reste l'audit externe. Cet audit sera fait par l'OIF et les experts locaux. Alors là où nous évoluons, si l'OIF et les experts locaux des parties prenantes estiment que cette loi sur la répartition est injuste et qu'il y a plusieurs doublons qui peuvent faire même le double, en ce moment-là, il va falloir que le pouvoir en place accepte de bon cœur qu'on approche une loi rectificative. Ce qui dérange dans cette loi, même si elle a été promulguée dans le délai, vous avez des contrées à l'est du pays où il y a la guerre, où les gens ont fui. Les uns sont au Rwanda, les autres au Burundi. Mais il y a plus de sièges là-bas par rapport aux contrées où les gens vivent paisiblement.
Du côté de la majorité présidentielle, on rejette la pensée de l'opposition et on dénonce la mauvaise foi. Chrysostome Vahamouity, député de la majorité.
J'aimerais tout d'abord remercier le président de la République d'avoir promulgué l'annexe portant répartition des sièges à la date voulue par le calendrier publié par la CENI le 5 novembre 2017. Et j'ai suivi malheureusement la même analyse tronquée sur certaines radios périphériques hier soir et ce matin. Et je dois vous dire que c'est quand même pitoyable qu'on biaise toujours les choses pour empester, pour créer une mauvaise atmosphère dans l'environnement préélectoral. Parce que la première question, c'est de dire quelles sont les régions, les provinces de l'opposition, quelles sont les provinces de la majorité. C'est d'abord une question très difficile. Je suppose que, par exemple, le Kasaï oriental est une province de l'opposition. Mais je sais que le gouverneur est de la majorité. Mais je suppose. Donc, c'est un raisonnement par absurde, mais montre que le Kasaï oriental de 2011 à 2018, je remets les trois provinces, Kasaï oriental actuel, Lomami, Sangourou ensemble, a connu une progression de 33% en nombre d'électeurs à Rwanda. Et donc, on ne peut pas attendre l'audit, parce que ce sont les mêmes personnes qui surveillent la même opposition qui trompe l'opinion publique, qui surveillent la CENI pour voir si le calendrier est respecté. Et c'est la même opposition qui veut qu'on arrête le chrono. Et même dans une entreprise, on ne tape pas l'auditeur pour produire le bilan.
Un dossier signé Alain Irung. Notez que l'annexe promulguée hier tient compte de 26 nouvelles provinces que constitue la République démocratique du Congo depuis 2016 et annonce une augmentation d'une dizaine de circonscriptions supplémentaires. Albert Fabrice Puella, merci de nous rejoindre. Vous venez à peine de faire votre entrée dans ce studio sous une pluie battante. À Kinshasa, vous êtes député national de l'opposition, leader du Parti pour la Renaissance du Congo, RECO en sigle, et membre de la dynamique de l'opposition, mais aussi du rassemblement. Vous venez d'écouter Fabien Moutombe de l'UDPS. Vous êtes, vous, du RECO. Êtes-vous d'accord avec son analyse ou pas?
Bien sûr que nous sommes d'accord avec l'analyse de l'honorable Fabien Moutombe, qui tombe bien à propos. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il a été établi l'ordre des choses. Quand on dit il y a un temps pour tout, effectivement, il y a un temps pour tout, c'est dans la Bible que cela est dit. On ne peut pas comprendre un seul instant que M. Nanga, la CENI, qui a publié un calendrier électoral suivant une certaine logique.
Là, c'est le bruit du calendrier que vous êtes en train de consulter, allez-y.
Oui, qui a prévu un certain chronogramme, un certain ordre normal de choses puisse se contredire dans la suite. Ce n'est pas normal. J'en fais pour preuve. Lorsque on doit voter la loi telle que nous l'avons fait et elle a été promulguée, encore que je suis curieux d'écouter quand il y a quelqu'un qui félicite le chef de l'État pour l'avoir fait. C'est ça son travail. Il n'a pas besoin de félicitations outre mesure.
C'est l'honorable Bahamouti qui vient de se parler tout à l'heure.
Je n'ai pas voulu citer son nom. Lorsque il est dit qu'il faut un fichier électoral, enfin, cette émission est pédagogique aussi, et andagogique aussi. Ouais. Au fait, c'est la liste des électeurs. Et c'est sur base de cette liste d'électeurs qu'on vote la loi, qu'on répartit les différents sièges. Il faut que la population comprenne cette donne. C'est sur base de cette liste qu'on répartit les sièges et que même on donne le quotient électoral à la fin. Et lorsque ce fichier électoral, cette liste n'est pas encore clairement établie, donc son établissement, son étude n'est pas encore finie, on ne peut pas un seul instant se permettre d'en tirer des conséquences, à moins que il soit déjà prévu la possibilité de venir avec une loi rectificative. C'est là que je salue le point de vue de l'honorable Fabien Moutombe qui l'a clairement dit. Puisque si déjà au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, il a été trouvé 6 millions de doublons, a fortiori avec l'audit externe de l'OIF, nous avons rencontré même ces experts qui nous disent que leur mission, c'est justement d'établir la confiance vis-à-vis du processus électoral, vis-à-vis de la Commission électorale nationale indépendante, vis-à-vis du fichier électoral, c'est-à-dire liste d'électeurs, qui, au fait, son établissement est l'élément capital, l'élément le plus important de toutes les opérations préélectorales, parce que ça définit toute la suite. Vous voulez avoir de bonnes élections, tout part aussi par l'établissement d'un fichier électoral fiable. Comment peut-on imaginer aujourd'hui que la loi soit déjà votée, promulguée, mais que demain, puisque les experts sont arrivés, vous avez suivi, après les élections de 2011, l'OIF a audité le fichier électoral et avait déjà établi 2 millions. Des fictifs et 2 millions de doublons. Et si aujourd'hui d'aventure, on arrivait à faire le même constat, mais il y aura même une remise en cause lorsque on nous parle, parce que nous, à ce qui nous concerne. Voyez par exemple lorsque M. Nanga, le bureau de la CENI, pour que cela soit impersonnel, vient au niveau de l'Assemblée nationale avec un chiffre précis, 40 millions d'électeurs. Mais au 6 avril. Mais directement, avant même l'élaboration, avant l'examen de cette loi, on vient corriger pour 4 provinces. Le Kwilu, le Tanganyika, la Tchopo et une autre province, cela m'échappe, cela peut me revenir. Et les Sankuru, surtout d'ailleurs. Mm-hmm. Là, le Tanganyika, la Tchopo et les Sankuru. Mm-hmm. On vient corriger, encore que pour les Sankuru, après les premières opérations, vous vous en doutez, on a eu plus de 2 millions plus de 2 millions d'enrôlés pour la seule petite province du Sankuru. 2 101 436 pour être précis. Et après nettoyage, on est arrivé à 1 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
qui teste de l'étendue ou de la surface qui définit la démographie.
Non, mais lorsque vous prenez le Sankuru et le Congo central, quelle est la province qui bénéficierait de la meilleure croissance démographique? Lorsqu'on sait au Congo central, il y a toutes les frontières qui sont là, avec l'afflux des Quinois et de ceux qui viennent de partout vers l'Oufou, vers l'Angola, avec toutes, avec les opérations économiques qui se passent avec les ports.
Cet observateur nous avait fait remarquer que tout cela est fictif.
Non, ce n'est pas théorique. Fictif. Non. C'est pourquoi nous disons, ces fichiers électoraux,
à défaut,
parce que, un instant.
À défaut d'un recensement.
Parce que avant même le début de l'examen au niveau de la loi, je vous ai parlé des quatre provinces. On a retranché deux sièges au Sankuru. On en a ajouté un à la province de la Tchopo, un autre siège au niveau de la province de Tanganyika. Le Kwilu, malgré l'augmentation de 37 000, cela n'a pas eu d'impact sur le nombre de sièges. Mais lorsqu'il y a déjà ces éléments-là, c'est ce qui veut dire que pour nous, le problème, ce n'est pas qu'il y ait plus de sièges ou moins, mais c'est au niveau du crédit qu'il faut accorder à ces fichiers électoraux. Il est biaisé. Mmh. Il est biaisé. Et nous posons la question de savoir, quelle est donc la crédibilité des chiffres avancés par le bureau de la CENI. Puisque nous savons, en dehors de cela aussi, les opérations ne sont pas encore terminées. C'est dans la loi qu'il est prévu l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Monsieur Nanga s'empresse à violer la loi ou à utiliser ce qui n'est pas prévu par la loi avec la machine à voter, mais ne met pas le même empressement pour exécuter ce que la loi prévoit, particulièrement l'enrôlement des Congolais des étrangers. Aujourd'hui, il commence à faire des rétropédalages. Comment peut-on imaginer qu'on s'empresse à faire voter la loi sur la répartition des sièges en cristallisant certains acquis pour des provinces de l'Est particulièrement, parce que il y en a, j'ai suivi l'honorable Vamuti. Alors qu'à l'Ouest, ils savent que ce sont des provinces acquises plus à l'opposition et la ville de Kinshasa, le Congo central, par exemple, ma province, que Curieusement, que le nombre ne puisse jamais s'accroître, mais là où il y a des tueries, là où il y a des problèmes, le nombre de sièges, curieusement, ne fait que s'accroître.
Albert Fabrice Pouella, vos interrogations, c'est tout ça qui fait la raison de cette émission. C'est pour ça qu'on est là, justement, pour en parler. Nous allons écouter vos co-débatteurs aussi sur ces mêmes questions que vous posez. Béatrice Loméa, députée nationale de la majorité présidentielle et secrétaire permanente adjointe du principal parti présidentiel, le PPRD. Toutes les avancées de la CENI sont dénoncées par l'opposition, comme vous venez d'ailleurs de l'entendre par les députés de l'opposition. Est-ce que l'opposition n'a pas un peu raison cette fois-ci de réclamer que le Parlement et le président de la République devraient attendre l'audit indépendant du fichier électoral avant d'aller plus loin?
Merci Donna pour la question. Par rapport aux avancées de la CENI qui sont dénoncées par les collègues de l'opposition, je dirais que je suis mal placée pour répondre à ces questions. Il faudrait absolument que vous puissiez envisager un autre débat où c'est la CENI qui puisse s'expliquer sur toutes les questions que nous venons de suivre. Mais par rapport à l'opposition qu'on est en train de faire à ce qui concerne la promulgation de la loi ou l'adoption au Parlement, avec l'audit, moi je dis que c'est un faux débat, puisque nous l'avons démontré lors des derniers débats, et d'ailleurs je suis contente aujourd'hui que le collègue Moutombe, dans son intervention tout à l'heure, a évolué pour dire que si jamais après l'audit externe, il y a nécessité de réviser, et en tout cas la loi a toujours prévu la possibilité de réviser une loi. L'autre fois j'avais dit si nous le faisons pour le budget de la République, et pourquoi on ne le ferait pas pour ça, mais nous avons aussi dit qu'il n'y a pas une disposition juridique, que ce soit dans la Constitution ou dans les lois de la République, qui oblige à ce que les opérations électorales puissent être soumises ou suspendues en attendant un audit externe. Nous l'avons démontré que la Constitution, de par l'article 211, donne plein pouvoir à la CENI d'organiser toutes les étapes de l'élection et qu'à ce stade, nous considérons que l'audit interne est accepté ou est demandé par la CENI, c'est de se mettre au-dessus de tout soupçon. Je suppose que la CENI a pris des garanties pour faire un bon travail et dire que nous n'avons rien à cacher à ce stade. Vous pouvez venir vérifier pour rassurer tout le monde. Mais quant à la promulgation, j'ai dit qu'il y a lieu de féliciter le chef de l'État, comme l'a dit le collègue Vamouti. Puisque vous savez, le chef de l'État, il avait raison de revendiquer la paternité de la Constitution. Là, il a respecté scrupuleusement alors. Parce que vous savez que l'article 140 de la Constitution fait obligation au chef de l'État de promulguer une loi après son adoption par le Parlement, dans les 15 jours qui suivent. Mais il n'a pas attendu ces 15 jours. Mais comme c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, il a su que par rapport aux contraintes du calendrier de la CENI, il fallait qu'au plus tard, les 8 mai, nous puissions avoir la loi promulguée. Et c'est ce que le chef de l'État a fait, donc fier chandel au chef de l'État, mais aussi à nous les députés, surtout de la majorité, puisque vous avez suivi les débats à cette époque, une certaine opposition a tenté même de faire des manœuvres pour retarder cet examen. Et nous, la majorité, nous avons dit, nous n'allons pas donner cette opportunité. Nous avons adopté la loi et l'est promulguée. Et donc là, la CENI est mise devant sa responsabilité pour les prochaines étapes qui concernent les élections.
Béatrice Loméa, puisque nous rentrons justement dans le vif du sujet, parlons donc du concret, des allégations qui peuvent être contestées nous font état que entre le vote de l'annexe et sa promulgation, il s'est passé des choses, notamment la poursuite du dédoublonnage du fichier électoral, et on a donc éliminé des personnes encore enrôlées, mais au lieu que le nombre les statistiques du fichier électoral diminuent, on a plutôt vu des augmentations d'électeurs dans certaines provinces. À la Tchopo, par exemple, on parle, selon ces allégations que vous pouvez démentir, hein, de 74 000 personnes de plus dans le Kwilu, de 37 000 de plus dans le Sud Ubangi, 25 000 et la Lomami, par exemple, 14 000. Est-ce que une réalité pareille ne vous paraît pas quand même suspecte?
Bon, je crois que ce travail a été effectivement envoyé au Parlement pour ce toilettage et la CENI a été à la disposition de la commission pour donner suffisamment d'explications. Je crois que c'est là les lieux où les collègues qui avaient des doutes devaient se rendre pour avoir toutes les explications. Nous avons tout suivi. En tout cas, la CENI a dû expliquer ses mouvements et là où il y avait vraiment des erreurs matérielles palpables, des corrections ont été faites et je pense qu'en tout cas, ce travail a été au Parlement pour ça et donc à ce stade, il y a vraiment la CENI qui peut s'attarder sur ces détails, mais elle a eu la possibilité de le faire au niveau de la Commission avant que nous puissions adopter définitivement la loi au niveau du Parlement ou de l'Assemblée nationale.
Mais est-ce que l'opposition qui continue de revendiquer un alignement cohérent d'actes, c'est-à-dire notamment on aurait dû d'abord finir un audit complet, tous les audits mis ensemble devaient être terminés, ensuite seulement passer au vote d'une loi faisant état des répartitions pour qu'on ait des données non discutables, plus contestées du tout, sur base desquelles on aurait dû travailler. Écoutez par exemple ce chercheur, un chercheur bien connu, hein, Jason Stirn pour ne pas le citer, qui s'interroge sur la nouvelle loi promulguée et il dit, je le cite, « Il y a des provinces où la population a augmenté dramatiquement de 46%. Il y a d'autres provinces où la population ne bouge presque pas. » Et la question à laquelle j'aimerais qu'il a posé, à laquelle j'aimerais avoir votre réponse, qu'est-ce qui explique cela, selon vous?
Oui, je vous ai dit tout à l'heure la question des chiffres, des précisions de telle à telle province, c'est une question technique et c'est la CENI qui a fait ce travail-là, qui est mieux placée de répondre et elle a eu l'occasion de le faire au niveau de la commission. Mais nous sommes aussi des questions de principe pour dire qu'il n'y a pas une disposition légale qui nous oblige à attendre un audit externe pour que nous puissions continuer avec les étapes des élections. Donc c'est ce que nous disons, et nous disons qu'en tout cas pour des questions qui concernent, là il y a autant de morts, il y a eu autant de morts, en tout cas la CENI a eu le temps d'expliquer, c'est des questions techniques, et ça a été fait au niveau de la commission.
Alors question de principe, cette question à laquelle les auditeurs attendent vraiment une réponse, finir l'audit, puis seulement après repartir définitivement les sièges, semble être le bon sens le plus élémentaire. Pourquoi est-ce que la majorité s'y oppose si fort? Pourquoi compromettre le consensus attendu et la décrispation à ce point? Y a-t-il un piège tendu par la majorité dans ces agissements?
Je l'ai dit à maintes reprises, cet audit n'a aucune contrainte légale. Encore qu'il y ait une jurisprudence, nous avons eu des élections à 2006, à 2011, nous n'avons jamais conditionné l'acceptation du fichier par un audit externe. Et nous avons dit que nous restons ouverts puisque nous tenons au respect du calendrier. Nous ne voulons pas donner des prétextes aux gens qui veulent absolument qu'on n'ait pas des élections au mois de décembre. Vous comprenez que si nous avions suivi nos collègues de l'opposition qui ne voulaient pas que nous puissions examiner et voter la loi, on serait encore là à train d'attendre, alors que nous avons la possibilité, la loi est promulguée. Si jamais, encore que je me dis que, en tout cas, moi, je suis convaincu que la CENI est sereine, elle a fait un bon travail, c'est pourquoi elle accepte l'audit. Et si jamais il y a des écarts qui vont vraiment au-delà de l'acceptable, et peut-être que ce sera un travail rapide qu'il va faire, mais qui n'aura pas un impact négatif sur le calendrier électoral. C'est une fois vous dire que nous, la majorité, nous sommes pour que nous allions aux élections suivant le calendrier tel que ça a été promis. Et c'est comme ça que nous sommes mis au pas pour voter la loi et qui a été promulguée.
Béatrice Lemea, merci pour ce premier échange. Nous revenons à vous. Alain-Joseph Lomanja, analyste des questions électorales, votre commentaire.
Oui, je suis d'abord surpris de constater qu'il y a des gens qui s'étonnent aujourd'hui de voir que la loi a été promulguée avant l'audit du fichier électoral. Mais c'était déjà prévu comme ça dans le calendrier électoral qui a été publié par la CENI et nous l'avions en son temps fait remarquer. Donc ce qui m'étonne, c'est que les gens s'étonnent aujourd'hui de cette inversion des choses. Et là, je voudrais dire que ça permet de voir aussi qu'en fait, sur le plan technique, l'audit n'apporte rien de substantiel à un fichier électoral. C'est une opération constatative qui ne permet pas de guérir ou de corriger des erreurs fondamentales qui peuvent exister dans un fichier électoral. Et en plus, nous avons connu un audit qui a été aussi réalisé par l'OIF en 2015. Et vous savez qu'il avait recommandé la révision partielle du fichier électoral. Quand le président de la CENI, le nouveau président de la CENI est arrivé, il a fait fi de toutes les recommandations de cet audit-là et nous avons repris la constitution du fichier électoral de A à Z. Ça signifie donc qu'il n'y a aucune contrainte légale par rapport à cette audite-là, qu'il soit mené par des experts internationaux ou par qui que ce soit. Ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Et donc, on ne doit pas beaucoup attendre de l'audit qui est en train d'être mené. La deuxième chose, c'est que la loi a été promulguée et cette loi qui a été promulguée ne va probablement plus changer. Or, on constate des disparités et des anomalies dans les statistiques qui ont été rendues publiques par la CENI. Si vous regardez bien, à la date du 6 avril, la CENI a rendu public les premières statistiques des électeurs au Congo. Et trois jours après, elle a déposé le projet de loi au ministère de l'Intérieur. Alors, quand vous prenez les statistiques rendues publiques en avril et qui sont publiées dans le site de la CENI, et que vous les comparez aux statistiques qui apparaissent maintenant dans la loi, vous vous rendez compte qu'aucune province ne garde les mêmes statistiques. Il y a eu changement. Et quand nous avons posé des questions aux gens de la CENI, ils nous ont expliqué qu'ils ont continué les travaux de doublonnage et de radiation des mineurs. Mais ce qui est frappant, c'est que dans ce travail-là, quand on fait le dédoublonnage, c'est-à-dire qu'on élimine les doublons, quand on radie les mineurs, c'est-à-dire qu'on diminue le nombre d'électeurs potentiels du fichier électoral. Or, ce qui est frappant, c'est que dans 16 provinces sur 26, le nombre d'électeurs augmente après les statistiques qui ont été publiées en avril. Et c'est là que ça commence à devenir
suspect. Oui. Ce qui, dans le bon sens le plus élémentaire, est quand même critiquable, non?
Mais oui, absolument. C'est-à-dire que la CENI doit pouvoir expliquer à l'opinion nationale comment une opération destinée à réduire le nombre d'électeurs à cause des doublons et des mineurs qui ont été enrôlés, comment cette opération peut-elle conduire à l'augmentation des statistiques dans certaines provinces? Et ces augmentations ne sont pas des augmentations légères, il y a des augmentations substantielles qui donnent à penser. Vous l'avez déjà évoqué, quand vous avez une province comme la Tchopo qui gagne 74 000 électeurs entre avril et le mois de mai, on peut se demander par quel miracle cela se passe. Et moi, je me suis fait peut-être deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que en réalité, il peut se faire qu'au mois d'avril, le 6 avril, au moment où la CENI proclame les premières statistiques, elle n'a pas fini totalement le travail de nettoyage. Et là, elle nous présente des statistiques partielles et donc incorrectes. Et entre-temps, elle continue ce travail et ça change les statistiques dans la loi. Ou alors, si ce n'est pas cette hypothèse, ça signifie que les statistiques qui augmentent dans la loi sont des statistiques arbitraires en vertu des critères que seule la CENI connaît. Et c'est là que ça peut poser des problèmes.
Alain Joseph,
vous avez cité plus.
Oui, Alain Joseph Lomanja, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Merci déjà pour cette première analyse. D'ailleurs, les hypothèses que vous donnez pourront être éclairées par l'une ou l'autre partie prenante à ce débat. Nous revenons donc à vous. Le temps de donner la parole aussi à nos auditeurs. Et nous commençons par cet auditeur de Bukavu qui a fait un commentaire adressé à Fabrice Puella.
Je suis Namega de Pascal à partir de Bukavu aussi. La promulgation de la loi portant répartition des sièges par le président de la République à la date fixée par les calendriers publiés par la CENI est salutaire, car cette loi faisait partie des contraintes majeures de la CENI en vue d'organiser les élections le 23 décembre prochain. Il reste à la CENI de faciliter l'opération de l'audit du fichier électoral pour que le peuple se rende aux urnes à la date prévu dans le calendrier publié le 5 novembre 2017.
Député de l'opposition et leader du parti RECO, Albert Fabrice Puella, vous avez la parole.
Merci beaucoup. C'est vrai, cette loi est importante. Ça faisait partie. On ne peut pas voir des élections législatives nationales, provinciales comme de des élections locales sans justement cette annexe à la loi électorale répartissant les sièges. C'est très important. Mais pour avoir cela, encore que, on n'a pas besoin, je reviens un peu pour répondre à ma co-débattrice.
Béatrice Lomea.
Oui, on n'a pas besoin de féliciter qui que ce soit pour un travail très bien fait. Encore que il s'agit encore de cette même personne qui avait dit qu'il n'avait jamais promis des élections. C'était une parenthèse. Alors, pour revenir à ce qui nous concerne, la loi, elle est importante, mais elle a un impact significatif parce que lorsque les sièges sont très mal répartis, cela peut même causer des troubles et des guerres. Comment aujourd'hui, imaginez par exemple que après audit...
Il faut signaler d'ailleurs à l'heure actuelle qu'il y a des provinces qui ont perdu le nombre de sièges.
Le nombre de sièges, oui. Effectivement, et d'autres...
En ont gagné beaucoup, beaucoup trop peut-être.
Voyez par exemple les questionnements du professeur tout à l'heure de notre invité, l'expert, le prof Lomanja, je pense que c'est son nom.
Oui, Alain Joseph Lomanja.
Lorsque une seule province, nous l'avons dit au départ, voit le nombre de ses électeurs augmenter entre avril, au moment où la Commission électorale nationale indépendante était supposée avoir fini l'opération, le nombre qui augmente de plus de 60 000 électeurs comme ça. Comment peut-on faire confiance à ces fichiers électoraux? C'est par quelle magie? C'est pourquoi nous disons que l'audit est très important. Encore que pour cet audit qui est ouvert à des experts de certains partis politiques, il est important pour ceux qui concernent, par exemple, les membres de la société, les experts de la société civile.
Mais vous avez écouté Alain Joseph Lomanja tout à l'heure qui a dit que selon lui, hein, c'est un expert des questions électorales, l'audit tel qu'on est parti n'améliorera pas grand-chose.
Ça, c'est son point de vue. C'est son point de vue, mais nous pensons que si cet audit, si nous avons, et c'est pourquoi j'invite même mes pairs de l'opposition à ce qu'on se mette ensemble pour donner un cahier des charges à nos experts qui vont nous représenter. Encore que ces experts doivent être bien triés pour que nous n'ayons pas la même expertise. Parce que pour cet audit, il faut plusieurs domaines. Nous devons avoir des statisticiens, nous devons avoir des démographes, des experts en data, c'est-à-dire en base de données, des spécialistes du type du serveur utilisé par la CENI, mais aussi un expert réseau informatique et des télécommunications capable de vérifier la sécurité de la base des données. C'est très important pour que en envoyant tel expert, vous envoyez, or vous n'avez envoyé que des démographes, vous n'avez envoyé que des statisticiens, alors que les quatre différents domaines cités sont d'une extrême importance. Nous saluons d'ailleurs les experts de la PRODEC qui nous ont fait une bonne étude là-dessus, une petite démonstration. Je pense qu'il est important que nous, au niveau de l'opposition, encore qu'ici, il faudrait que nous puissions souligner les différents partis politiques qui ont des délégués au niveau de la CENI, du bureau comme de la plénière, risque de se comporter comme juge parti. Il est important, par exemple, pour une certaine frange de la société civile et la dynamique de l'opposition, par exemple, à laquelle j'appartiens, qu'elle puisse envoyer des experts, parce que là, ils seront un peu plus objectifs, n'ayant pas un problème de conscience vis-à-vis de certains représentants.
On verra ce que vous ferez de ces propositions que vous donnez vous-même. Écoutons encore ce deuxième auditeur du Bukavu qui fait un commentaire que nous invitons l'honorable Béatrice Lomea d'écouter.
Ikiri Chomba de Bukavu au Sud-Kivu. Je n'arrive pas à comprendre ces deux événements contradictoires et je me demande quel est le motif de cette loi promulguée en précipitation, si pas une fuite en avance. Je me pose la question de savoir, au cas où l'OIF détecte les irrégularités dans les 10 fichiers, que deviendra alors cette loi qui vient de promulguer le président Kabila? La CENI devrait éviter de jouer les jeux du pouvoir en se comportant comme une église au milieu du village. Dans le cas contraire, le peuple congolais doit faire échec à tout plan tendant à nous amener dans les élections biaisées à l'avance. À mon avis, la CENI et le pouvoir sont dans le schéma, soit de la non-organisation des élections cette année, soit de nous amener tout droit vers les élections irrégulières avec comme conséquence mort d'ordre.
Député de la majorité présidentielle, Béatrice Lomea, vous avez la parole.
Bien, j'ai suivi les compatriotes de Bukavu et finalement je me dis que nous voulons une chose et son contraire. Et longtemps nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment aller aux élections suivant ces derniers calendriers. Et lorsqu'il s'est agi de faire sauter les derniers verrous juridiques
qui concernait la répartition des sièges, nous, la majorité, nous avons vraiment été au premier rang pour que ça puisse être fait. Et maintenant que la loi est promulguée, les gens commencent à chercher encore des subventions, des prétextes, et je pense que ce n'est pas correct. Il n'y a pas de contradiction. Nous avons démontré que les élections s'organisent conformément aux lois de la République. Et donc, l'audit, c'est une façon de rassurer tout le monde, puisque je sais que la CENI en accepta et est sûre d'elle-même aussi d'avoir fait un travail acceptable. Donc, on ne devait pas attendre cet audit, sinon, nous irons au-delà du 23 décembre. Et encore une fois, c'est la majorité présidentielle qu'on va diaboliser. Maintenant que nous sommes vraiment très engagés, nous sommes vraiment à l'aise et les gens voient que nous voulons faire cette cause. Monsieur, c'est contradictoire et donc c'est un faux débat.
Béatrice Lomeya, mais est-ce qu'il n'est pas quand même logique que les opérations soient des opérations transparentes, consensuelles et qui sécurisent tout le monde?
Mais c'est justement pour ça qu'on fait cet audit. On dit que même si ce n'est pas une contrainte du point de vue de la loi, nous voulons que ça se fasse pour confirmer effectivement ce qui doit nous mettre d'accord.
Mais constatez que l'opposition, pour le moment, ne fait que dénoncer pas à pas les avancées un peu forcées qu'on constate de la part de la CENI.
Bon, attendons les résultats de cet audit et peut-être c'est sur base de ça que nous allons nous remettre ensemble avec nos collègues de l'opposition pour voir si effectivement il faut faire marche arrière ou bien respecter les calendriers tels que ça a été fait pour que nous puissions avoir l'alternance qui sollicite tous les jours.
Alors, ce troisième auditeur qui part de Kisangani fait un commentaire et nous invitons Alain Lomanja à écouter ce commentaire avec nous.
Freddy Bossimo, ici mais depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La promulgation de l'annexe à la loi électorale portant la répartition des sièges est une avancée significative du processus électoral. Mais ce qui paraît paradoxal, c'est que le travail abattu par les experts de la CENI et ceux de l'Organisation internationale de la francophonie aurait du sens que si celui-ci était fait avant la dite promulgation. Ceci étant, quelle est l'utilité du travail abattu par les experts tant nationaux qu'internationaux si l'audit externe, pendant que l'annexe à la loi portant la révision du fichier électoral est déjà promulguée. Au cas où les résultats des experts seraient contradictoires et conflictogènes à cette annexe promulguée par les garants de la nation, quelle serait la nouvelle voie à suivre quand on sait bien qu'il nous reste peu de mois pour aller aux élections?
Alors, Alain-Joseph Lomanja, expert des questions électorales, vous avez la parole.
Oui, l'auditeur pose des questions importantes et dont il faut tenir compte. J'avais déjà souligné dès le départ le caractère politique et psychologique d'un audit du fichier électoral parce qu'il arrive souvent à l'approche des élections et même si on arrivait au constat que le fichier n'est pas cohérent, on ne va pas l'annuler parce qu'on ne va pas annuler les élections. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, chaque audit se termine par des recommandations qui sont soumises à l'administration électorale. Il les prend en compte ou non. Donc ça ne va pas changer substantiellement quoi que ce soit. Et je voudrais demander aux députés de l'opposition de ne pas poser à l'audit des questions auxquelles l'audit ne peut pas répondre. Par exemple, pourquoi est-ce que le nombre d'électeurs a augmenté dans telle province et non dans telle autre au niveau de l'enrôlement? C'est pas un audit qui peut répondre à ce genre de questions. Pourquoi est-ce que telle province a perdu 3 sièges par rapport à 2011? L'audit ne peut pas répondre à ces questions-là. L'audit peut juste faire des recommandations pour que le fichier actuel soit amélioré par la CENI.
Vous voulez dire que l'équipe qui est mise en place à partir d'aujourd'hui pour un peu revoir ce qu'il y a dans cet audit ne saura rien, ne s'intéressera pas à ces diminutions, à ces augmentations qui sont dénoncées ces jours-ci?
Non, je pense qu'il y a deux choses qui sont sur lesquelles les gens font un peu de confusion. Les premières augmentations et diminutions dont nous avons parlé, il s'agit des augmentations et des diminutions dans les statistiques publiées par le CENI le 6 avril et les statistiques qu'on trouve dans la loi. Celles-là peuvent être éclairées et doivent être expliquées à l'opinion nationale parce que c'est incompréhensible qu'après les dédoublonnages, les statistiques des provinces, des 16 provinces puissent augmenter. Par contre, si on fait une comparaison par rapport à 2011, pour savoir pourquoi est-ce que le Nord Kivu, le Sud Kivu ou telle autre province a perdu des sièges ou a gagné des sièges, cette audite ne saura jamais répondre à une telle question. Donc, c'est ces deux dimensions à ne pas comprendre. Et puis, si vous permettez, je voudrais juste faire une observation. Un fichier électoral comporte et comportera toujours des anomalies et des choses à corriger. Mais on ne peut pas partir de ceci pour discréditer tout le fichier en soi. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut éviter l'autre piège qui consiste à croire que tout est mauvais dans le fichier électoral. Il y a certes des disparités et des anomalies à corriger, à expliquer, à corriger, mais on ne peut pas dire que tout est mauvais parce que tant qu'on n'aura pas un état civil cohérent dans le pays, on aura toujours des fichiers électoraux qui auront ces problèmes.
Alors, Alain-Joseph Lomandja, votre dernier mot, qu'est-ce qui peut être concrètement fait avec tous ces questionnements, avec toutes ces dénonciations? Qu'est-ce qui peut être fait pour corriger le processus électoral pour arriver à une bonne fin aujourd'hui?
Ce que moi je peux proposer, c'est que la CENI accepte de faire participer, comme elle a déjà déclaré, toutes les parties prenantes à cet audit-là. Et à partir du travail de l'audit, qu'elle accepte d'intégrer les recommandations qui seront faites pour l'amélioration du fichier électoral. C'est ça qui peut être fait. Bon, je peux aussi dire que, d'après mon analyse personnelle, il n'y a aucune province qui a perdu un siège à cause des disparités des chiffres entre avril et dans les annexes de la loi.
Merci.
Par contre, là où ça peut avoir un impact important, c'est au niveau de la présidentielle.
Merci.
C'est important que ces disparités soient corrigées.
Merci Alain-Joseph Lomandja pour cette contribution. Albert Fabrice Pouella, et c'est votre conclusion aussi, vous avez donné des propositions ici sur comment doivent être constituées les équipes de surveillance, si je peux appeler ça comme ça, ou d'audit qui est en cours en ce moment. Mais justement, concrètement, vous êtes de l'opposition, qu'est-ce que vous allez faire?
Je pense que à la suite de l'expert tout à l'heure, c'est vrai, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Mais lorsqu'il est constaté des irrégularités faites à dessein dans un processus aussi capital pour la vie nationale comme ce fichier électoral, moi je pense qu'il y a un problème. Il se pose un problème de crédit et de crédits qu'il faut accorder à ce fichier. Il est important qu'on puisse l'examiner sans complaisance et s'il y a des disparités, qu'on accepte, qu'on puisse revoir justement la répartition.
Merci Béatrice Loméa. Est-ce que, à l'opinion qui vous écoute, vous pouvez aujourd'hui, au nom de la majorité, jurer que ce camp politique n'est pas en train de tout faire pour dribbler tout le monde?
Pas du tout. Je crois que nos actes démontrent plutôt le contraire. Je voudrais conclure en appelant les collègues Pouella à la modestie. Lorsqu'il est choqué des félicitations qu'on adresse au chef de l'État, je me dis que la critique doit être positive et négative.
Merci. Mimi Kindou était à la technique. Guimat est à la réalisation, accompagné de Alain Irung, de Namadimba, c'est moi à la présentation, sous la supervision de Julien Nyamouini. Dialogue entre Congolais pour ce soir, c'est terminé. Au revoir et à bientôt.